Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Rémi, avec la taxe du jour.
La taxe du jour, le prix des places de parking calculées en fonction du modèle de sa voiture. La mesure vient d'être mise en place, elle va être mise en place plutôt, en tout cas elle vient d'être votée lors du Conseil de Paris qui se tenait hier. Dans le viseur, les propriétaires de SUV, pas seulement mais en particulier, à partir du 1er janvier prochain, ça va arriver vite, une tarification progressive se fera donc en fonction de plusieurs critères comme le poids et la taille du véhicule, mais également sa durée de stationnement ou encore au regard de son moteur. Des mesures dérogatoires seront possibles pour les familles nombreuses ou au regard des revenus.
C'est une bonne chose ça, Mathilde Immer, de faire payer plus cher le stationnement pour les SUV?
Ouais, je pense que oui, on oublie que plus une voiture est lourde, plus elle pollue. Et le SUV, du coup, comme c'est des grosses voitures, ça pollue plus qu'une voiture classique. Donc en fait, le mieux, c'est une petite voiture électrique. Évidemment, quand vous avez une famille, c'est pas toujours possible, mais vaut mieux une voiture traditionnelle à essence qu'un gros SUV électrique. Ouais. Ça paraît contre-intuitif, mais le poids de la voiture a vraiment un impact énorme.
Moi, je me souviens. On nous dit l'inverse depuis des années.
Au moment de la Convention citoyenne pour le climat, à nouveau, ce genre de format permet d'aller dans le détail et c'était assez clair. Et à nouveau, il y avait une demande de réglementation au niveau national de faire en sorte que les producteurs de voitures soient de plus en plus incités, voire contraints, à produire des voitures qui respectent, pour que les gens aient pas envie d'acheter des grosses bagnoles, parce qu'une fois qu'elles sont sur le marché, c'est compliqué de résister au marketing, c'est compliqué de résister à tout ça. Mais donc à nouveau, moi j'ai pas envie d'avoir un truc culpabilisant sur les consommateurs, mais je pense que c'est une bonne chose, à condition que ce soit fait dans une justice sociale. Et à Lyon, je me souviens qu'on avait du coup réduit le prix des places de parking pour les gens qui avaient des petites voitures essence ou électriques, et fait payer plus pour les personnes qui ont des grosses bagnoles.
Quoi que tu fasses, ça restera discriminatoire, parce que celui qui a beaucoup d'argent et qui a un gros SUV, il s'en foutra de payer le stationnement plus cher. Donc l'idée qui est de dire, parce que laisse-moi finir, l'argumentation, elle est de dire on veut moins de SUV en ville. Donc peut-être vous aurez un peu moins de SUV, mais vous aurez le SUV de que des gens riches.
De toute façon, les SUV,
la deuxième chose que je voulais dire, c'est que David Béliard, il a défendu cette mesure en expliquant que ce sont des véhicules qui sont censés franchir des rivières, des montagnes et qu'il n'y en a pas en ville et que ça ne sert à rien.
Paris,
donc il confond en fait deux choses, le SUV et le 4x4. C'est pas la même chose. Le SUV, c'est la nouvelle voiture familiale. Aujourd'hui, dans le catalogue des constructeurs, tu n'as plus de voiture familiale classique, tu n'as quasiment plus que des SUV. Donc, quelqu'un qui a une famille nombreuse ne peut pas faire autre chose que d'acheter un SUV. Donc, il confond les 4x4 et les SUV. Évidemment, un 4x4 en ville, c'est stupide. On est tous d'accord. Un SUV, on peut pas faire autrement pour aller chercher ses courses. Sauf à se faire livrer par un livreur Amazon qui est payé 3 francs 6 sous avec un contrat de daube.
C'est pour ça qu'il y a une dérogation pour les familles. C'est qu'aujourd'hui, les constructeurs, c'est un scandale.
Je reviens
toujours à pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que c'est les collectivités locales, puisque là on parle de Lyon, de Paris, de Bordeaux, qui font ça? Parce qu'au niveau national, le gouvernement, Emmanuel Macron, que tu adores Thierry, ne fait rien et n'a pas suivi les propositions. Il me semblait que tu étais plutôt pro-Macron, pardon si je me suis trompée, ne fait pas grand-chose sur la question écolo. Et du coup, les maires qui sont écologistes, ou ceux, parce qu'il y en a qui sont aussi PS, il y en a des LR, qui font avancer les choses sur le plan écologique dans leur ville, ils font ce qu'ils peuvent avec les règles qu'ils ont en leur matière.
Mais moi j'aimerais savoir comment ils vont faire, comment David Béliard et ses amis vont faire pour savoir que, par exemple, j'ai un SUV et est-ce que j'ai une famille nombreuse ou pas? Est-ce que je suis célibataire? Comment ils vont faire? Normalement, sur ma plaque d'immatriculation, il n'y a pas marqué si je suis seule.
Non, mais tu pourras demander, en fonction du nombre de ta famille, tu pourras demander
un petit carton,
à la mairie. Oui,
macaron.
Oui, absolument.
Macaron, famille nombreuse.
Absolument.
Voilà, Benjamin.
Oui, j'ai un SUV à Paris parce que une fois encore, avec 3 enfants, c'est exactement ce que disait Thierry, c'est quand même très compliqué de faire autrement.
Oui, en tout cas, c'est pas simple.
Il y a juste un truc que moi j'ai du mal à comprendre intellectuellement, c'est que moi j'ai le critère, la vignère critère, qui est critère 1.
Mais qui est une aberration.
Oui, et donc moi, sans être un spécialiste et n'ayant pas fait la convention climat, j'avais l'impression, parce qu'il y avait ce critère 1, que j'étais à peu près propre avec ma voiture qui effectivement est
extrêmement polluante.
Et même moi, avec l'électrique, je pollue, hein.
Oui, mais non, mais bien sûr. Alors après, on pollue.
La batterie.
Mais
ce qu'il faut.
Oui, il y a encore un dernier truc, juste Rémi, c'est que moi, je trouve une fois encore que là, quand on écoute David Béliard, ces gens-là ne réussissent pas à rendre l'écologie sympathique.
Quand ils nous disent, alors que Mathilde Imor, oui, par exemple.
Oui, absolument.
Je sais pas. Je dis Mathilde Imor, maire de Paris.
Et, non, mais en disant, il n'y a pas de rivière et de machin, ils insultent quand même beaucoup de gens. L'an prochain, ils vont encore supprimer, je dis ça de mémoire, 60 000 places de stationnement dans Paris. Oui. Et donc, une fois encore, il y a plein de gens qui, de bonne foi, ils sont pas des pollueurs en série, vont subir cette situation. Oui. Moi, je trouve que tout est fait pour...
Et
nous sortir un petit peu de la cause.
Allez, on va passer tout de suite au single du jour.
Dans son single dévoilé avant la sortie de son nouvel album, C'est quand il s'éteint, le rappeur marseillais Jules glisse au détour d'un couplet une rime à charge contre la réforme des retraites. Écoutez.
64 à la retraite, respecte pas le peuple, le gouvernement. 64 à la retraite, respecte pas le peuple, le gouvernement.
64 ans à la retraite, il respecte pas le peuple, le gouvernement. Avant, Jules, c'est le rappeur SCH qui, avec son titre Champs-Élysées, écrivait « Se lever pour 1200, c'est insultant ».
Est-ce que les rappeurs ont raison de faire de la politique, Thierry Moreau? Il y a beaucoup de gens qui fustigent le rap en disant les textes sont vides, etc. Et là, ils s'engagent. Donc
oui. Après, c'est facile quand on est rappeur et qu'on s'appelle Jules, de lutter contre la réforme des retraites. Jules, il a une fortune estimée à 2 millions de dollars. Il a gagné l'année dernière un peu moins de 500 000 euros. D'accord.
Il gagne un peu moins de 500 000 euros. Donc il faut être pauvre pour se plaindre contre la réforme des retraites.
Ce que je veux dire, c'est plus facile quand on s'est constitué d'ores et déjà un patrimoine qui fait que de toute façon, on n'aura pas de problème de retraite, de dire qu'on est contre cette réforme des retraites. C'est juste ça que je dis. Voilà, c'est tout. Après que les rappeurs s'engagent, c'est très bien.
Il a peut-être pas envie de travailler jusqu'à 64 ans.
Je pense qu'il n'aura pas besoin de travailler jusqu'à 64 ans.
Après,
faire du rap à 64 ans, c'est pas simple.
Mais il y en a qui ont essayé. Non, mais enfin, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on n'en connaît pas beaucoup.
Thierry, je suis
pas rafraîchissant ou pas pour vous?
Mais bien sûr que c'est rafraîchissant parce qu'il y a eu, en fait, dans l'évolution du rap, le rap des années 80, des années 90, c'était un rap qui était un rap très engagé. NTM, qu'on cite souvent, IAM, Sniper, la France est une garce, on s'est fait trahir, le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. C'était des textes qui étaient volontairement, politiquement très forts. Après ça, il y a eu toute la mode, c'est des clips avec des nanas ultra siliconées, et donc c'était uniquement des textes sur j'ai plus d'argent que toi, et si tu viens, je vais apprendre le rap, etc. Qu'on revienne un petit peu à du rap politisé, moi je trouve que c'est très bien. Mais je veux dire, c'est Anne Sinclair qui disait ça. Est-ce qu'il faut forcément être pauvre pour être de gauche? Elle a complètement raison. Jules, il pourrait gagner 1 milliard d'euros. Non, je pense pas que ce soit plus facile. Au contraire, parce qu'il paye vachement d'impôts, notre ami. Donc il pourrait se dire, mais attendez, on en paye trop. Moi j'ai plutôt tendance à. Voilà. Et moi je trouve ça très bien.
Ouais, puis on va pas le blâmer parce qu'il a mis de l'argent
dedans. Je dis pas ça. Je dis que c'est plus facile quand on a les moyens. D'avoir une conscience généreuse.
Ça pourrait être le cadet de ses soucis. Il pourrait ne pas en parler.
Bien sûr.
Et au contraire, il le met dans ses textes. C'est des textes qui sont écoutés plutôt par les jeunes. Et voilà, il met en avant ses convictions.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les rappeurs s'engagent. C'est plutôt bien d'avoir des textes qui veulent dire quelque chose. J'ai pas de souci avec ça. Je dis simplement que c'est plus facile pour lui. C'est factuel.
Mathilde Zimmer.
Moi, je pense que c'est bien aussi que les rappeurs s'engagent, les artistes en général, parce qu'on a besoin et qu'on a, je trouve qu'on manque aujourd'hui de figures aujourd'hui qui portent un peu une voix politique. Enfin, il y a plus de Coluche, etc. Donc, c'est bien que tous un peu s'y mettent. Je sais pas si c'est plus facile. Je sais pas si j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je suis d'accord avec toi, Thierry? Est-ce que c'est plus facile quand t'es riche d'être de gauche et d'être engagé? Je sais pas, si je prends dans mon cas, que tu bosses dans le bâtiment, que tu sais que t'as 7 artisans sur 10 qui vont même pas aller jusqu'à 60 ans, qui vont arriver à 60 ans et qui vont être en maladie pour la plupart d'entre eux. Est-ce que c'est plus facile d'être contre cette réforme des retraites que pour Jules? Franchement, j'en sais rien. Je pense que peu importe, en vrai, que ce soit facile ou pas, ce qui est important, c'est à un moment normalement que le président de la République et les institutions écoutent le peuple. Le vrai scandale, c'est ça. C'est que le Parlement, qui est censé voter la loi selon notre Constitution, n'a même pas pu débattre de cette loi.
Le premier à dire que ça avait été mal embauché depuis le début, cette histoire. Depuis le début, cette histoire des retraites. Donc, j'ai pas de souci avec ça.
Le contrôle du jour.
Alors que le fisc espérait débusquer entre 80 000 et 100 000 piscines non déclarées grâce à des vues aériennes et une intelligence artificielle, il en a finalement trouvé beaucoup plus. Le Parisien révèle que 120 000 propriétaires ont reçu ou vont recevoir une lettre de la Direction Générale des Finances Publiques pour qu'ils se mettent en règle. Ils auront 30 jours pour déclarer leur bassin sur le site des impôts. Cela devrait rapporter entre 40 et 50 millions d'euros en 2023 aux recettes publiques.
C'est une bonne chose ça, Benjamin Muller, ou alors il faut fiche la paix aux Français?
Alors, ça me fait plutôt marrer, moi, les gars qui vont se...
120 000 piscines.
Ouais, 120 000, oui, mais...
C'est pas 300... Ils ont passé tous les départements, je crois.
Oui, c'est plutôt, moi, sur ce coup-là, plutôt le côté fiche la paix aux Français. Et d'ailleurs, le débat sur les piscines, quand on regarde dans le fond... comment dire, je comprends intellectuellement le côté on pointe du doigt les Français, et d'un autre côté je trouve que ça fait partie, on parlait du barbecue tout à l'heure, ça fait partie des plaisirs de la vie, pardon, c'en est un des miens, c'est l'été, d'aller dans une piscine et pouvoir profiter un petit peu avec les enfants.
On n'interdit pas les piscines, hein.
Non, j'ai bien compris, mais je veux dire, on pointe du doigt ceux qui les ont, et derrière ça il y a aussi le on manque d'eau et donc les piscines c'est pas bien. Voilà, ça
Si ça peut te rassurer, dans l'article que j'ai lu sur les opérations faites par le fisc en ce moment sur les piscines, c'est plutôt, ça peut peut-être te rassurer. Ils vont également, en tout cas, ils envisagent de le faire aussi pour les vérandas et pour les abris de jardin de plus de 5 mètres carrés. Le logiciel va servir à ça aussi.
Sauf que la différence, c'est que tu peux végétaliser ton toit de véranda ou d'abri de jardin
sous les arbres,
pour que ça se voit pas.
Tu le fais sous les arbres.
Tu le fais sous les arbres, effectivement. Ouais. Alors qu'une piscine sous les arbres, c'est une galère. Tu es obligé d'avoir un petit filet après pour ramasser les feuilles.
C'est que, Benjamin, je te comprends pas trop parce que, ça me fait penser. La fraude fiscale est un sport national en France.
Oui, mais les gens ne savaient pas, c'est les vieilles piscines.
La petite fraude fiscale est un sport national en France. Tout le monde essaie de frauder.
Tu vas non plus.
On va juste redonner les chiffres. Ça va coûter aux gens qui ont une piscine 365 euros par an.
Ça
veut dire que pour utiliser leur piscine, ils vont payer 30 euros de plus par mois. Je pense que quand on a les moyens d'avoir une piscine, on peut payer 30 euros de plus par mois.